9h22 minutes, notre invité, le nouveau directeur du service de police de la ville de Montréal, Sylvain Caron. Monsieur Caron, bonjour.
Bonjour, bon matin.
D'abord, vous arrivez donc après Martin Prudhomme qui retourne à la Sûreté du Québec. Vous n'êtes pas issu du SPVM et on connaît tous les problèmes que le SPVM a vécu. Vous avez quand même donc œuvré dans les derniers mois, là.
Oui, tout à fait.
Est-ce que le climat semble s'améliorer après avoir été vicié pendant des années, je dirais?
Bien, écoutez, moi, je suis arrivé au mois de mars 2018, puis déjà, j'ai pas senti autant ce que M. Prudhomme a pu sentir à son arrivée. Les gens étaient en attente d'un changement. Alors, puis le changement s'opère, puis ça va super bien. Alors, j'ai pas connu vraiment des gens du même niveau que j'ai entendu dans les journaux là, ou des médias. Alors, les gens sont très mobilisés puis engagés à changer. Bon, il en reste un peu, c'est fragile à des places encore parce que les gens n'ont pas tous adhéré à la nouvelle structure.
Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est fragile à des places?
Ben écoutez, c'est un changement majeur qui s'est opéré. On a regroupé les enquêtes criminelles sur une direction. Alors déjà, c'est les enquêtes appartenaient à chacune des régions. Alors, il y avait des silos. Alors, évidemment, en regroupant l'ensemble des enquêtes sur une seule direction, alors il y a un chef des enquêtes pour l'ensemble du territoire, c'est assez important. Et toute la question du soutien aussi en enquête est regroupée. Alors, on a regroupé par activité. Puis je pense que c'est déjà, évidemment, ça c'est un gros changement dans la culture là, ici à Montréal. Alors ça, évidemment, il y a encore du changement un peu. Les gens ont de la difficulté un peu à adhérer.
Y a-t-il encore des clans?
Non. Puis le processus de sélection qui était mis en place, avant, les gens attendaient un appel. Hein, vous comprendrez, attendaient un appel pour se positionner dans l'organisation. Il n'y a plus d'appel. Là. Alors là, on affiche un concours. Les gens qui ont l'intérêt, mais ils préparent le portfolio, puis ils préparent le lettre d'intention, puis ils appliquent. Alors, mais là, les gens, la culture change tranquillement. Ils attendent encore, qui attendent des appels, ils ne sont pas habitués, les gens n'osent pas appliquer. Alors, on est là-dedans, là, de communication, échange avec nos gens, puis les amener ailleurs. Alors, mais les gens s'inscrivent très bien. L'Association des professionnels des officiers nous aide énormément dans cette démarche-là.
Okay. Prendre des dossiers quand même importants. Le cas de Gilbert Rozon, je ne vais pas commenter parce qu'il y a des accusations, ça, je comprends ça, mais je veux juste que vous expliquiez aux gens quelque chose. Là. Il y a eu 14 dossiers, puis un a été retenu. Comment ça arrive à 14? Est-ce que dans les 14 cas, la police, les enquêteurs considèrent qu'il y a assez de matière pour soumettre ça au DPCP?
Ce qui arrive, dans tous les dossiers qui ont été, évidemment, qu'on a recueillis, les plaintes, alors les gens ont voulu porter plainte, évidemment, après ma barre, il faut que la personne accepte de porter plainte. Alors, dans tous les dossiers où il y a eu des plaintes, nos policiers ont travaillé à recueillir l'ensemble des éléments, des faits, avec des rencontres et des témoins potentiels, évidemment, là, des situations qui ont pu survenir dans le passé. On parle des dossiers qui sont survenus quand même assez loin dans le temps. Puis, avec les faits recueillis, on présente le tout au procureur titré au dossier. Et en cours d'analyse de dossier, le procureur va demander des compléments. Est-ce que dans ces dossiers-là, spécifiquement, il y a eu des demandes de compléments? Sans doute, parce que dans les dossiers d'agression sexuelle, rarement, on n'a pas de demande. Il y a souvent des demandes de compléments pour toutes sortes de raisons. Alors, nos gens ont fait un travail colossal, très professionnel, ont recueilli l'ensemble des faits, des éléments qu'on a soumis au procureur et les résultats qu'on connaît aujourd'hui.
Moi, j'ai vu souvent dans le passé, puis là, je parle pas de ce cas-là en particulier, des enquêteurs qui étaient en maudit, là, je vais utiliser un terme poli, parce qu'ils étaient convaincus qu'il y avait de la matière, qu'il y avait toutes les preuves, puis qu'on n'aurait pas allé plus loin. Puis le DPCP dit non. Avez-vous senti ce genre, appelons ça, de frustration des enquêteurs dans ce dossier-là?
Non, pas tout à fait. C'est sûr qu'un enquêteur qui enquête, qui fait une fixation sur son dossier, il faut que l'enquêteur, évidemment, avec l'expérience, se détache un peu de cette situation-là. Son rôle à lui, c'est pas de mettre sa personnalité, évidemment, c'est de recueillir l'ensemble des faits, le maximum de tout ce qu'il peut avoir dans un dossier.
Mais d'arriver comme enquêteur, je l'ai, là. Moi, je pense qu'on peut l'accuser là-dessus. Je pense qu'on peut aller le chercher, puis le DPCP veut pas.
Alors, ça fait partie des réalités quotidiennes de l'ensemble des dossiers, c'est pas juste en matière d'agression. Ça devient frustrant. Ça devient frustrant pour les enquêteurs, mais l'enquêteur, il faut qu'il fasse la part des choses. Son intérêt personnel versus l'intérêt de la victime, puis il fait son maximum en recueillant ce qu'il a recueilli. Mais oui, ça peut arriver qu'il y ait des frustrations, mais nos enquêteurs ont une expérience, évidemment, dans ce genre de dossier-là.
Bon, le cas Rozon était évidemment très médiatisé. Il y a le cas d'Éric Salvaille aussi qui a été très médiatisé. Pourquoi c'est si long?
Ben, écoutez, les cas d'agression, déjà, de permettre à la victime de s'exprimer, c'est pas facile pour les gens. Ils sont accompagnés du CAVAC ou d'autres autres organismes, de bien recueillir une bonne version des faits, de recueillir les éléments entourant l'événement qui est rapporté, si c'est des éléments qui sont récents ou antérieurs. Donc, ça demande beaucoup de démarches. Alors, c'est long au niveau de l'enquête. Et après ça, évidemment, il y a toute l'analyse qui est faite par les gens du procureur de la Couronne, du directeur des poursuites pénales et criminelles, qui prend un certain nombre de mois à analyser chaque aspect. Alors, ils ont un travail important à faire de leur côté également, puis c'est pas négligeable comme décision à prendre. Alors,
mais pensez-vous que dans le cas de Salvaire, c'est pour bientôt? La décision finale?
Écoutez, je suis pas au fait de tous les détails au niveau du directeur des poursuites pénales et criminelles. Nous, notre travail a été effectué, puis a été soumis au cours de l'été, fin printemps, début été.
OK, pour vos enquêteurs, ça, c'est un dossier réglé. Ouais, il est soumis, puis là, c'est la balle est dans leur camp.
C'est ça, tout à fait.
OK. On a beaucoup parlé de profilage dans les derniers jours où le service de police a donné ses grandes lignes de directives. Est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que c'est un problème marginal? C'est un problème important, le profilage?
Ben, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation parce que quand même, Montréal, c'est plein de 53 % de diversité. Alors, vous comprendrez qu'on fait au-dessus d'un million d'interventions par année de toutes sortes. Alors, c'est sûr que le souhait de l'organisation, on n'en veut pas de profilage. Est-ce qu'il y en a? Sans doute qu'il y en a du profilage. Est-ce qu'il est intentionnel? Je pense pas. Alors, évidemment, nos policiers, la ligne est mince entre l'application d'une loi ou l'application assurer la sécurité de nos citoyens puis une perception de profilage. Alors, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y en ait pas. Le plan de prévention qu'on a présenté permet à déployer, à sensibiliser, à échanger des bonnes pratiques, à travailler avec les organismes du milieu. Est-ce que on souhaite que ce soit meilleur? L'idée, c'est comme je disais cette semaine, si c'était parfait, on ne sera pas là.
Mais je vous donne des exemples. Hier, j'ai ouvert les lignes là-dessus pour faire réagir des gens qui peuvent se dire victimes de profilage, puis des policiers. Puis je vous résume deux, trois cas. Là. Il y a quelqu'un qui me dit, on parle des Noirs, mais lui, c'est un jeune. Puis un jeune au volant d'une voiture de luxe, 2 heures du matin, centre-ville de Montréal, mettons que les vitres sont un peu teintées, là. Puis la police vient me voir, puis elle me demande, qu'est-ce que je fais là? Je suis arrêté à une intersection. Pour vous, c'est du profilage, ça?
Ben, c'est une application. La légitimité de l'intervention. La légitimité de l'intervention. Qu'est-ce qui légitime le policier ou la policière à faire l'intervention?
Trouve ça louche qu'un kid soit au volant d'un char, mettons, luxueux, 2 heures du matin ou 3 heures à fermeture.
Est-ce que c'est un excès de vitesse? Pas
il est
détecté.
Arrêté. Ouais.
Il est arrêté. C'est-tu les vitres teintées qui l'attirent? Il y a pas 4 choses, là, tu sais. Les vitres teintées, bon, il y a une réglementation qui s'applique. Bon, évidemment. C'est difficile. Et c'est là que je dis que c'est la ligne est très mince entre le fait d'assurer la sécurité des Montréalais et des Montréalaises dans son ensemble, puis avoir une perception de profilage. C'est ça qui... C'est difficile à juger et à évaluer.
Là, je vous donne le point de vue d'un policier qui me raconte une histoire.
Oui.
Ils sont... c'est un patrouilleur, puis il y a un mandat de surveiller des gangs de rue. OK? Puis, pas capable de les intercepter sans avoir un motif. Donc, il attend son motif. OK? Puis... Il traverse, c'est un jeune noir, là, il traverse illégalement. OK? Il n'est pas tout seul à le faire. Mais le policier va voir le jeune noir. Si tu isoles le moment, là, tu dis, il a profilé, il a choisi le jeune noir pour ça. Or, c'était dans le cadre d'une enquête sur des gangs de rue pour pouvoir l'intercepter. Il a fait sa job correctement.
Mais il a fait sa job. Pour moi, il aurait dû aller enquêter l'ensemble des gens qui étaient là, ceux qui ont fait la même infraction. Là. Alors, c'est pas juste une seule personne, il faut aller voir. Je comprends que la personne qui est là avait peut-être une identification quelconque, là. Mais je pense que si on fait partie d'un groupe X, puis les gens sont tous en infraction, le motif n'est pas juste pour une personne, le motif est pour l'ensemble des gens. Alors là, je suis pas là, évidemment, c'est contextuel, là. Mais évidemment, pour avoir travaillé dans un milieu, alors quand tu fais une intervention, tu vas chercher habituellement les gens qui sont en infraction. Puis, alors oui, à date, ce que vous me dites, ça semble être une perception de profilage. Est-ce que ça en est vraiment? Est-ce que c'est intentionnel de faire du profilage? Moi, je pense pas. Mais ça se peut qu'il en arrive du profilage. On veut pas qu'il y en ait. Okay? Le plan qu'on a présenté, c'est qu'on veut pas qu'il y en ait de profilage. Alors, on veut que nos gens, les Montréalais, soient traités de façon équitable, mais que la légitimité d'intervention de nos policiers soit à la base de toute intervention.
Je vous parle, appelons ça d'une certaine perception ou de propos que j'ai déjà entendus de conseillers à l'Hôtel de Ville de Montréal. T'sais, on ne peut pas dire que Projet Montréal, là, c'est reconnu comme une formation politique pro-police, là, en partant. J'ai entendu des conseillers dire, quand il y a des manifs, on a-tu des policiers à droite, nous autres, là, on a-tu des partisans de la meute dans la police, on est-tu bien sûr que les manifestants de gauche ne feront pas davantage brasser? La police penche-tu d'un bord dans une manif? Ça, je l'ai entendu de conseillers municipaux. Vous leur dites quoi?
La plus grande neutralité de nos gens qui travaillent dans les gens, dans leurs interventions, peu importe, c'est la grande neutralité et c'est la ligne de conduite de nos l'ensemble de nos interventions, c'est d'être neutre dans tout ce qui est à part. On applique une vraie réglementation, une loi, un règlement quelconque. Peu importe, gauche, droite, centre. Alors, ce qu'on s'attend de nos gens, c'est la neutralité totale.
Avez-vous regardé les manifs des Gilets jaunes en France?
Oui, j'ai suivi ça, évidemment.
Comment vous avez trouvé les CRS?
Ouf, c'est...
Ouf, quoi?
Pas facile ce qui se passe en France. C'est une crise sociale importante là, actuellement. Tu sais, puis ça rappelle des années, évidemment, ici, en 2012, de moindre ampleur, évidemment, en 2012, ce qui a été vécu ici à Montréal. Mais c'est préoccupant. C'est préoccupant de voir ce qui se passe.
Puis comme chef de police, là, quand, si demain matin, on a une situation comparable, là, comment vous gérez ça? Le droit de manifester, mais en même temps, l'infiltration des casseurs là, de gauche et de droite.
Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est tout un travail important à faire avec nos partenaires, avec nos gens, évidemment, qui sont au niveau du renseignement, au niveau de la collaboration avec les différentes personnes qui veulent bien collaborer, évidemment. Les casseurs, ils veulent pas collaborer habituellement. Alors, on a un travail d'organisation, des bons plans de travail, des plans de mobilisation. Vous savez, M. Arcan, à Montréal, il y a 10 ans, on traitait environ 300-400 services d'ordre. On est rendu près de 1600 en 2018 dans une même année. Alors, c'est quand même assez important. Là. Alors, nos gens ont développé une expertise, une expérience. On va en Europe, on a encore quelqu'un qui partait aujourd'hui pour l'Europe pour aller voir un peu ce qui se passe, pour aller s'enquérir de comment ils gèrent la situation et comment ils s'organisent, parce qu'on s'inspire évidemment de ce qui peut se passer ailleurs un peu dans le monde. Alors, on a quelqu'un qui partait aujourd'hui pour se joindre pour une mission particulière, puis il se rendait à Paris pour aller voir ce qui se passe un peu avec les Gilets jaunes.
OK. Je voudrais partager avec vous une de mes fixations. C'est rien de grave. Mais souvent, on voit, par exemple, avec tous les chantiers qu'on a à Montréal, là, les policiers qui interviennent pour la fluidité, ce qui est très bien. Les cadets aussi, maintenant, là, ça coûte moins cher et tant mieux. Mais combien de fois j'ai vu des policiers rester dans leur auto-patrouille, puis c'était bloqué, pas sortir. Là, puis je peux comprendre qu'il peut y avoir des situations exceptionnelles. Là, mais ça, là, je suis pas tout seul, là, je vous jure, c'est enrageant pour l'automobiliste qui dit « Coudonc, pourquoi est-ce qu'il ne va pas faire le trafic? Pourquoi est-ce qu'il n'aide pas à la fluidité? »
Oui, tout à fait. Puis c'est une coordination, de circulation. Puis probablement que le policier qui est là attend d'avoir le OK, que tous les gens soient placés dans les bonnes intersections, parce que ça ne donne rien d'avoir un policier de place si à deux intersections plus loin, on n'est pas prêt à s'organiser. Alors oui, je peux comprendre que la perception laisse prévoir que c'est qu'il fait là. On s'attend à autre chose de nos policiers. Alors, c'est arrivé encore récemment dans le quartier Rosemont, où il y a eu des problèmes. Bon, c'était impromptu. Alors évidemment, quand c'est impromptu...
Pas loin de l'hôpital?
Oui. Alors vous comprendrez. C'est impromptu. Alors, le temps de s'organiser, d'avoir tous nos effectifs au bon endroit, ben il se passe un 15 minutes, un 20 minutes. Alors le policier qui est là, il voudrait bien, mais même s'il serait là, il ne serait pas utile à grand-chose s'il n'y a pas une coordination et une concertation.
Sylvain Caron est le directeur du service de police de la ville de Montréal. Le mariage des Hells en plein centre-ville, vous avez pensé quoi de ça, vous?
Comme pas mal tout le monde, je crois. C'est assez préoccupant. Alors, je le disais sur une autre tribune ce matin. Écoutez, c'est pas des idoles, ces gens-là. C'est des gens criminalisés, là. Alors, puis on travaille de très près avec...
Quelle lecture vous faites, là? T'sais, ils ont été discrets pendant un bout de temps, là. Puis là, ils reviennent dans le décor, puis avec des expositions, des produits dérivés, le mariage... grandiose en plein centre-ville. C'est quoi le message qu'il envoie?
Bien, évidemment, c'est un message de force. Et on se comprendra. Puis vous comprendrez qu'on travaille très bien avec la GRC et la Sûreté du Québec sur le plan de la stratégie provinciale pour essayer de travailler différemment. On a appris les expériences du passé, évidemment. Alors, on les travaille de façon différente, mais c'est inadmissible de voir ce qu'on a vu. Et je crois qu'il y a encore du travail énormément à faire. Puis je pense qu'au niveau législatif aussi, je pense qu'il y aura du travail à faire.
Pour les empêcher d'afficher leurs couleurs.
Tout à fait. Okay. Il y a déjà un jugement qui a été passé. Là. Je pense qu'il y a une décision qui a été rendue d'un tribunal récemment là, qui a enlevé les patchs. Je pense qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là.
Est-ce que c'est l'organisation criminelle la plus importante à Montréal?
Une des organisations les plus importantes.
Ça serait laquelle qui serait la plus importante?
Le COTSI est assez important aussi, là, au niveau de l'italien.
Mais on a toujours l'impression que l'alliance, mafia...
L'alliance est forte. Hein. L'alliance entre les différents crimes, souches de crimes organisés est assez forte. Alors, ça a changé, le portrait a changé énormément au cours des 10 dernières années.
Mais là, vous parlez d'alliance, parce qu'avant, on avait l'impression que la mafia était au-dessus, puis avait un donneur d'ordre, là, puis les gangs de rue faites ça, puis les Hells faites ça, on n'est pas dans ça. Là.
L'alliance est forte.
Donnez-moi plus de détails un peu.
Écoutez, il y a du travail qui se fait, du très bon travail qui se fait. Nos gens collaborent.
Mais quand vous dites alliance, qu'est-ce qu'ils font? Là? Ils font des conseils d'administration?
Ben, ils ont des bonnes rencontres. Je pense que les gens échangent entre eux. Puis les parties prenantes sont différentes qu'ils étaient il y a 10 ans. Et les parties prenantes sont tous assis autour de la même table. Alors, ça,
est-ce qu'il y a un parrain de la mafia à Montréal? Vito Rizzuto, c'était le parrain désigné. Il est mort, il a été remplacé. Est-ce un parrain à votre connaissance?
À ma connaissance, c'est pas clairement établi.
Oh! Il y a quoi, la chaise est vide?
C'est pas clairement établi.
Mm-hmm.
À ma connaissance.
M. Caron, merci beaucoup d'être venu.
Merci, M. Arcan. Joyeuse fête. Puis je tiens à remercier l'ensemble du personnel du service policier civil qui, au jour, à tous les jours, donne un excellent service à la population.
Il y en a une couple qui écoute, là, je peux vous dire ça.
Bon, j'espère. Puis je les salue en passant. Puis je salue toute la population de Montréal également.
OK. Écoutez-vous District 31, vous?
Non, pas du tout. Ma fille écoute ça, là.
Fille?
Oui. Mais ça me pose des questions parfois.
Puis qu'est-ce qu'elle vous demande?
Ben, papa, c'est-tu de même vraiment?
Et?
Je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles.
Parce que il y a une partie de la job de police qui est plate. Le monde ne veut pas toujours en train de d'arrêter des voleurs. Puis il y a une partie de. Tes chefs de police, pas toujours super excitant.
Non.
OK, je pense ça. Sylvain Caron, directeur du service de police de la ville de Montréal. On fait une pause, on revient après.
Bonne journée.
Au revoir.